This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
This is Annabel Gaberti and you are listening to Lawfully Creative, my podcast to talk with professionals in the creative industries to hear their stories, what inspires their creation, what decisions change their careers, what relationships influence their work. Today's episode is brought to you by Crefovi, our London and Paris-based law firm focused on advising the creative industries. Subscribe to our podcast, Lawfully Creative, or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please do leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you.
Bonjour Malik, comment allez-vous? Bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi du retard. Je voulais m'assurer que j'étais bien sur Ethernet, etc., sur le câble Ethernet, et donc.
D'accord.
Voilà. Alors, aussi un autre truc que je voulais vous dire, c'est que je me suis démonté le dos hier en faisant un cours de yoga Ashtanga sur Zoom.
Ouais.
Donc, si je grimace, c'est pas vous, c'est juste que
vous avez mal.
Voilà.
Ok.
Pas personnel, hein, c'est juste que voilà.
Et c'est quel yoga vous dites?
Ashtanga, c'est assez dynamique et. Voilà, je très grosse douleur en bas du dos. Donc voilà.
Il faut changer de type de yoga alors.
Mais je fais différents types de yoga. Ce qui est fantastique avec ce centre, c'est que on peut faire du vinyasa, du yin qui est très calme, voilà, différents types de yoga. Mais là, hier soir, c'était le Ashtanga.
Ok.
Voilà.
Bon, ben, alors, désolé. Bon,
non, voilà. Enfin, je voulais juste vous prévenir, quoi. Ne prenez pas personnellement si je fais. Alors, j'ai préparé quelques petites listes de questions. Je vais juste. Oui, c'est bon. Ça enregistre. Ça me dit là-haut que ça enregistre.
Oui, je vois aussi, ouais.
Ouais, voilà. Ce serait dommage sinon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà. Donc, j'ai préparé. Ah, je voulais vous montrer un truc. Donc, si vous voulez, quand vous voulez, on commence. Vous êtes prêts?
Oui, je suis prêt, ouais.
Je vais vous montrer un truc. Ça vous dit quelque chose?
Ouais, c'est une Yamaha.
C'est ma flûte que j'ai depuis que j'ai 9 ans, parce que j'ai commencé à 9 ans. Donc, c'est une étude Yamaha et donc, bon, moi, je suis…
281S.
Pardon?
281S.
Écoutez…
IFL 281S.
Bravo, tout à fait, 281S. Et je l'avais acheté chez Feeling, rue de Rome, ouais. Avec mon père, je crois, un samedi, avec ma mère, quand, voilà.
Ben, c'est la flûte sur laquelle j'ai commencé aussi.
Voilà. Alors justement, ma première question, c'était maintenant vous jouez sur quoi?
C'est une question d'actualité parce que je viens tout juste de revenir à mes premières amours justement. J'ai joué pendant longtemps sur une Pearl.
Ok.
Que j'avais. C'est je sais pas.
D'accord.
C'est peut-être américain. J'en sais rien.
Ok.
Je crois que c'est américain. Ouais. En fait, donc j'ai joué pendant, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années là, sur une Pearl que j'avais eue parce que bon, bref, que j'avais eue par il m'avait fait un sponsoring.
Très bien.
Donc j'avais eu la flûte un peu moins chère que si je l'avais achetée neuve. Enfin, elle était neuve, mais puis j'aimais bien la sonorité. Sonorité très assez large avec pas mal de souffle. donc j'aime bien. Et là, je viens de changer.
D'accord.
Je viens de changer. Et j'ai trouvé une Yamaha d'occasion. Donc elle est. C'est une 383.
Ah ouais. Mais.
Silverhead. C'est une 383. Elle a été fabriquée apparemment en 98.
D'accord.
Elle a appartenu à un musicien amateur. Et donc je l'ai eu pour pas trop cher. Je l'ai eu pour 1200 euros retamponnée et nettoyée, alors que neuve, elle vaut 3000 et quelques, je crois.
Fantastique, belle
affaire. Et donc voilà, donc c'est tout nouveau. Donc là, cette semaine, je suis en train de la découvrir un peu quoi.
Et vous avez toujours votre perle ou vous aurez maintenant plus que cette flûte Yamaha?
Ouais, j'ai toujours la perle, ouais. Mais bon, la perle, elle passe vraiment comme flûte de rechange. Enfin, si jamais j'ai un problème, quoi. D'accord. Mais j'ai toujours qu'une seule flûte. J'ai jamais eu vraiment de flûte, une flûte de rechange, etc. Mais voilà, mais je suis assez content, ouais. Elle est assez différente de l'autre. Et c'est marrant parce que quand j'ai été essayer les flûtes, c'est vrai que ben, quand je souffle dans une Yamaha, il y a, je sais pas, peut-être que parce que j'ai commencé avec cette perce-là.
Ouais.
Il y a un truc assez assez un peu plus immédiat qu'avec.
Ah mais en fait, ne rougissez pas, hein, mais j'ai un compliment à vous faire. Je pense que vous avez probablement le plus beau son de flûte que j'ai jamais entendu de ma vie. Moi, en fait.
C'est gentil.
J'ai étudié au conservatoire de Suresnes, conservatoire de musique de Suresnes, avec madame Nathalie Cotte. Mmh. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Qui, non, je ne connais pas.
Elle faisait, bon, je suis plus en contact avec elle maintenant parce que le temps a passé, mais elle travaillait notamment avec Dutronc et elle faisait en fait la, vous savez, quand il fait la musique, ah.
Oui, de la nuit,
il y a un super solo de flûte et elle notamment durant ses concerts elle l'accompagnait pour entre autres hein mais donc elle faisait voilà donc
elle faisait le solo
pardon
elle rejouait le solo qui avait été joué sur l'enregistrement
voilà donc elle faisait ça durant les concerts de Dutronc sur Paris et bon elle avait un beau son et c'est vrai que moi elle m'a toujours fait travailler mon son afin qu'il soit pas venteux etc. Et c'est vrai que c'est, donc mais vous je crois que je vous ai découvert grâce à FIP probablement parce que quand je suis à Paris en France j'écoute beaucoup FIP et ils vous aiment bien donc je pense que c'est comme ça que je vous ai découvert en plus comme j'étais flûtiste amatrice et après je crois que je vous ai vu trois fois en concert donc une première fois à Paris mais je me souviens plus du tout du contexte c'était probablement il y a 20 ans après une fois à Nice dans un comment dire dans une espèce de une très jolie petite maison de jeunes je ne sais quoi qui a signé juste à côté du conservatoire dans le haut de Nice et moi j'ai un petit appartement en fait qui est juste en face et tu me dis ah Magic Malik passe et tout je vais aller le voir donc là je vous avais vu à Nice aussi à ce moment-là mais c'était encore une fois il y a un certain temps.
Et ouais, ça doit remonter, ouais.
Ça remonte. Ouais. Il y a bien 10-15 ans. Et la dernière fois, c'était il y a 2 ans, hein, en tout ce bazar de Covid, au musée du Quai Branly, puisque en fait, moi, je suis partie du cercle.
Ah oui. D'accord.
Ah, et le son aussi que vous aviez durant ce concert, c'était fantastique. Donc, c'était plus de la musique africaine, cette fois-ci, que jazz. Et c'était là, franchement, j'ai constaté effectivement que vous avez un des sons les plus purs que j'ai jamais entendu de ma vie à la flûte. Voilà, je me permets. Hein.
Pourtant, c'est le travail du son que j'ai, il va vers le souffle. Hein. C'est pas au contraire, c'est pas un son dont j'ai enlevé le souffle. Au contraire, c'est un son. Dans lequel j'ai remis du souffle.
Ouais, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, parce que en fait, Nathalie Cotte, elle m'a toujours fait beaucoup travailler mon son, et le fait et moi pendant 10 ans, avant de lancer mon cabinet d'avocat Crifovi sur Paris et Londres, donc j'étais toujours à Londres, et je faisais partie d'un ensemble de musique d'instruments donc il y avait des flûtistes, notamment évidemment des flûtistes anglais, parce que c'est à Londres. Et il y a un truc que j'avais constaté, c'est qu'ils étaient fantastiques. Alors, il y a des plus et des moins. Ils étaient fantastiques en side reading, C'est-à-dire que tu leur mettais une partition en face, ils n'avaient jamais vu de leur vie, ils étaient immédiatement capables de la déchiffrer et de jouer le truc, parce qu'ils anticipent toujours, ça s'appelle le side reading, c'est-à-dire que, je sais pas comment ils font, mais ils disent 3 ou 4 secondes avant les notes qu'ils vont jouer 3 ou 4 secondes après, donc ils sont toujours complètement à peau et tout, donc ça s'appelle le side reading, ils sont très doués en side reading, mais par contre, leur son est hyper venteux, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait aucun travail sur le son, et donc à chaque fois qu'ils jouent, c'est... Enfin, c'est vraiment... Et moi, j'écoutais ça, alors bon, par contre, j'étais nulle en side reading, moi, il me fallait plus de temps pour arriver à préparer la partoche, mais à la déchiffrer, mais par contre, mon son, c'était quand même un peu plus travaillé, quoi.
Plus travaillé, ouais.
Surtout quand on passait les examens, etc., tu pouvais pas avoir un son qui faisait fou tout le temps, sinon tu faisais retoquer à l'examen, quoi. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire par venteux. Mais après, peut-être que vous avez une autre définition de venteux, en fait.
Non, c'est juste qu'effectivement, je vais pas chercher un son comme ça. Plutôt chercher à...
Ah, mais quelle pureté.
Avec du souffle, quoi. Ou un son assez simple.
Je pense qu'en fait, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient du mal à travailler l'embouchure au niveau de comment tu souffles dans ton embouchure. Et je pense qu'à chaque fois, ils soufflaient à moitié. Mais je parle de mes collègues anglais quand j'étais dans.
Oui.
Je pense qu'ils soufflaient une grosse partie en dehors de l'embouchure, donc ça faisait.
Oui.
Ah, il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est que vous êtes pas trop pour les trémolos, vous. J'ai remarqué que vous aimez pas parce qu'il y a des rampas, etc. Les bowling, ils aiment bien faire les oui, faire un peu, vous voyez, vibrer à la fin des vous êtes plus dans le son hyper cristallin, mais qui reste. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux trémolos?
Ouais. Oui, mais en fait c'est.
C'est pas trop votre truc, non?
Non, mais en fait c'est lié aussi à la culture du jazz qui est on va dire c'est une posture instrumentale où on est assez proche de la voix. Et en fait dans le chant, quand ça chante dans les traditions chantées, on va dire nord-américaines, ou en tout cas qui viennent un peu. Le trémolo, c'est pas trop un truc qui est très prononcé, quoi. C'est
C'est plus classique.
Et puis bon, quand j'ai ouais, voilà, c'est et alors que c'est aussi très prononcé dans le travail de la voix en classique, finalement. Je pense que les instruments mélodiques se rapprochent souvent du vocabulaire en tout cas de l'esthétique vocale. Et donc c'est normal que les flûtes en classique se rapprochent de l'esthétique vocale le classique avec le trémolo. Et qu'en jazz, on est plus dans quelque chose, voilà, de beaucoup plus droit, beaucoup plus simple au niveau de voilà. Après, les trémolos, c'est souvent des trémolos de fin de phrase.
Tout à fait.
Qu'on va avoir. Le trémolo, il arrive à la fin de la phrase. Mais c'est vrai que c'est pas un trémolo on va dire automatique, quoi. C'est un trémolo qui va servir de alors que c'est vrai que souvent en classique le trémolo va faire partie du son, à moins que ça soit indiqué sans trémolo, on va le mettre par défaut un peu. Et voilà, mais les choses ont peut-être un peu changé, hein. Je sais pas trop avec la musique.
Merci pour ce point de vue, en tout cas. J'avais jamais pensé à ça, qu'effectivement c'était une question de culture au niveau de la.
Oui. Et puis je me souviens aussi d'une citation de Miles Davis qui m'avait assez, parce que Miles par exemple, il a un son très très droit
à la
trompette, et je pense qu'il y a aussi eu à un moment donné un parti pris chez certains instrumentistes d'aller vers un son très droit aussi,
D'accord.
Pour se démarquer certainement. ou pour, je sais pas, peut-être pour manifester une certaine austérité ou quelque chose comme ça. Et Maës, il disait, j'aurai tout le temps d'avoir du trémolo quand je serai vieux, parce que j'aurai pas le choix, et donc mon son tremblera, alors j'aurai du trémolo à ce moment-là. Et donc, quand j'ai bossé mon son après...
Moi qui étais fière de mon trémolo, celle-là, ça me l'a un peu... Pardon.
Et, non, il n'y a pas de souci. Et donc, oui, c'est vrai qu'on par défaut, on essaie de travailler un son pour faire de l'expressivité sans trémolo. Mmh. Voilà, essayer d'avoir de l'expressivité sans trémolo, ce qui n'est pas évident.
Et alors, à ce propos de différences culturelles, j'ai regardé, alors j'ai fait beaucoup de recherches hein, sur votre profil, et d'ailleurs, bravo, félicitations, depuis la fin du confinement et depuis l'année dernière, vous avez un site internet en place maintenant, Non, mais c'est bien, félicitations, parce que l'année dernière, vous aviez pas ça, donc ça donne toutes les informations importantes sur, notamment sur tous vos albums, etc., donc ça, c'est chouette. Mais ce que je lisais, en fait, sur votre CV, qui est dans ce, vous êtes téléchargeable sur votre site, si je me souviens bien, c'est magicmesadri.com, hein, c'est ça?
Magicmalik.fr, je crois.
Magicmalik.fr, pardon. C'est qu'en fait, donc, la majorité de vos études, vous les avez faites au conservatoire, dans un répertoire plus classique au départ. Quand vous étiez à Pointe-à-Pitre et après à Marseille, où vous êtes ouais. sorti avec d'ailleurs le premier prix du conservatoire, c'était essentiellement du classique que vous étudiez à l'époque, n'est-ce pas?
Alors le classique, j'ai étudié le classique à partir du moment où j'ai rencontré Marc Rovellas, le professeur qui m'a un peu ouvert les antennes.
D'accord.
Et qui a fait en sorte que j'ai conscientisé un peu ma passion pour la musique, qui était plutôt inconsciente avant. Donc ça, c'était vers l'âge de 15-16 ans. 16 ans peut-être. Et 15 ans. Et donc avant le classique faisait pas trop partie de mon environnement musical.
Mais alors vous jouiez quoi avant?
Avant je jouais comme ça, je jouais pas vraiment très sérieusement en fait.
Vous improvisiez avant? Vous étudiez pas les partoches de je sais pas moi Mozart, non?
Non, en fait. Ouais, en fait on va dire que mon enfance musicale a été mon rapport à la musique, je pense que je mesure maintenant que ça a été une chance, mais mon rapport à la musique a été assez préservé, on va dire. C'est-à-dire que il n'y avait pas de poids, enfin l'aspect pédagogique intervenait de façon assez légère. Et intervenait de façon assez, on va dire, je dirais pas ludique, mais oui, c'était. J'allais à l'école de musique comme on va faire de la sculpture ou du dessin quand on est enfant, parce que ça fait du bien d'aller faire un peu une activité artistique, quoi.
Ouais. C'était assez pas.
Ouais, c'était pas. En fait, c'était pas soumis à, on va dire, une évolution. À des diplômes, l'obtention de prix, c'était vraiment, ça n'avait rien à voir avec l'école, on va dire, d'accord.
Parce que franchement, moi, quand je faisais mes diplômes, parce qu'en fait, j'étudiais le piano et la flûte quand j'avais, ouais. Et après j'ai laissé tomber le piano et je me suis consacrée qu'à la flûte. Mais honnêtement, quand j'allais à mes examens de fin d'année, j'en tremblais. Hein.
Oui, donc j'ai pas eu ça.
C'était pas du tout cool. C'était. Et alors en plus le problème, je suis d'accord avec vous, c'est toute cette institution française du conservatoire, c'est cool. Ça t'apprend effectivement le solfège, lire les partoches, donc la théorie, tout ça. Mais le problème aussi, c'est qu'après, ça t'apprend pas de la créativité. Ça t'apprend effectivement à exécuter une partition, mais ça t'apprend pas du tout la créativité. Donc, en tout cas, moi, au niveau où j'étais, hein, je crois que je me suis arrêtée au moyen 1 ou un truc comme ça. Mais donc, en fait, tu t'apprends pas à improviser. Et la seule chose que tu fais, c'est que tu deviens un bon exécutant. voilà, mais bon, enfin, un bon interprète, je sais pas, en tout cas, t'interprètes. Mais effectivement, après, enfin, moi, j'ai jamais, par exemple, fait de la composition, etc., etc. Et je trouvais que c'était très rigide, quoi. C'était la seule chose qu'on te demandait, c'était d'être un bon exécutant, justement, bien savoir
faire. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, du coup, une, enfin, la dimension d'improvisation, elle se retrouve dans la nuance que vous venez de faire. Entre exécutant et interprète, peut-être que justement dans l'interprétation, il y a une dimension de créativité, alors qui est pas la même que quand on improvise, on va dire littéralement avec le matériel littéral de la musique, quoi, c'est-à-dire l'ordre des notes, la fonction des notes qu'on fait dans un cadre, on va dire. En fonction d'un environnement choisi, ça peut être un environnement tonal, modal, sériel, n'importe, que sais-je. Je pense que je pense que ceux qui deviennent des interprètes, c'est ceux qui passent à travers les gouttes, justement, de cette pression, on va dire, académique. Donc, moi, j'ai eu la chance de pas y être soumis quand j'étais, voilà, donc
qu'à 15 ans.
Donc mon rapport à la musique c'était j'ai d'ailleurs voulu arrêter plusieurs fois quand j'étais enfant.
Ah ouais.
Parce que c'est
heureusement que vous n'avez pas arrêté.
Parce que j'en avais marre d'aller tous les mercredis à l'école de musique, etc. Ah ouais. Et il y a eu des fois où j'ai dit à ma mère, ouais, est-ce que vraiment parce que moi ça me suffisait de jouer c'était de la flûte à bec que je jouais surtout. Ça me suffisait de jouer à la maison quand j'en avais envie sur des morceaux qui passaient à la radio ou tout ça. Je me disais c'est pas la peine que j'aille à l'école.
Ah ouais, vous écoutiez les morceaux et après vous les refaites.
J'aimais bien jouer par dessus ou j'aimais bien les refaire.
Donc.
Et
quelle bonne oreille.
Ma mère m'a toujours dit non, tu continues, c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc.
Une femme pleine de sagesse, bravo.
Voilà. Je lui transmettrai.
Et elle, et donc en fait, ouais. Donc ça, je vous a jamais particulièrement attiré d'être genre le premier flûtiste d'un ensemble à la Emmanuel Pahu.
Je pense que c'est plutôt passé dans l'esprit. De ceux qui m'entouraient dans ma famille, qui m'ont permis de venir en France, de m'inscrire à ce conservatoire, et qui m'ont encadré dans le travail de préparation du concours, etc. Je pense que leur ambition était, on va dire, peut-être plus, entre guillemets, reliée à la musique écrite occidentale, vu que, bon, j'ai rentré au conservatoire, que j'étais un bon élève. Et donc, je crois que peut-être eux se sont plus imaginés que... une direction pour moi, ça aurait été justement bon de passer des concours, de rentrer au supérieur, puis de devenir flûtiste solo émérite et reconnu. Mais en fait,
et alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est où? Quand est-ce qu'il y a eu le switch?
Mais en fait, moi, j'ai jamais eu vraiment d'ambition particulière. En fait, mes ambitions étaient très très locales. Mes ambitions étaient très localisées autour de la flûte et parfois juste de ce que je devais faire chaque semaine devant merde, j'ai un trou de mémoire. Bref, ça va me revenir.
Vous voulez dire pour le cadre de votre cursus, dans le cadre de ce que demandait le prof?
Oui, voilà, de ce qu'il me demandait chaque semaine. Donc j'essayais de faire en sorte que chaque semaine, quand j'arrive au cours, Jean-Louis Beaumadier, voilà. Donc
mon ambition à Marseille.
Oui,
à partir de 15 ans.
À Marseille. Mm-hmm. Je suis rentré à 17 ans. Donc entre 15 et 17, j'ai travaillé la flûte de façon à avoir le bagage pour venir au conservatoire.
Ça vous a pas fait un gros choc de partir de Pointe-à-Pitre et de venir dans la métropole comme ça? Ça vous a pas...
Si, c'était énorme, parce que d'un coup, effectivement, déjà, il y avait le poids de l'académie, et puis maintenant, on me demandait des résultats. Alors qu'avant, bon, on ne me demandait pas spécialement de résultats.
Et vous êtes venu tout seul ou il y a des membres de votre famille qui étaient sur Marseille ou qui vous ont accompagné ou...
En fait, j'ai toute une partie de ma famille. Enfin, ma mère, elle est française. Enfin, française, on va dire qu'elle est bourguignonne, en fait. Elle est de moitié bourguignonne.
D'accord.
Et avec aussi, enfin, mon grand-père est... Bref, il y a toute une partie de ma famille qui est en France, en fait. Enfin, qui est d'ici, du côté de ma mère.
Quand t'habites, c'est quoi?
Et donc,
c'est Martinique?
Là, c'est Guadeloupe.
Ah, pardon.
Donc, en fait, j'ai grandi en Guadeloupe. C'est pas grave.
C'est mes parents qui sont allés. Nous, ils nous ont laissé, mon frère et moi, chez mes grands-parents quand ils sont allés en Guadeloupe. Et ils étaient
effectivement. Ah oui, d'accord.
Ouais, donc je suis jamais allé, moi. Mais, ouais.
Oui, ok. Mais ils sont allés en Martinique ou en Guadeloupe?
Eh non, ils sont engueulés en Guadeloupe, ils sont allés à Pointe-à-Pitre, là où vous étiez, ouais.
D'accord, ok. Donc, j'ai grandi en Guadeloupe. Oui, c'était un choc, ouais. C'était un choc, déjà, au niveau des dimensions, hein. C'est le même choc qu'on a quand on vient d'ici et qu'on va aux États-Unis, hein, ou en Chine. On a un choc, quand on quitte Paris et qu'on arrive dans les villes américaines ou chinoises, c'est vrai qu'il y a, des dimensions qui sont pas les mêmes. J'avais la chance aussi, je crois, pendant mes études en classique à Marseille, de ne faire que ça. Moi, j'étais pas scolarisé.
D'accord.
Parce que j'avais quitté l'école.
Ok. Bon, donc,
toute la semaine, je faisais que de la musique, alors que les autres élèves, bon, après, j'avais un retard. Moi, j'avais pas fait tout le cursus qu'ils avaient fait avant. Mm-hmm. Donc, bon,
l'un rattrapait l'autre. Au niveau de la théorie, au niveau du solfège, au niveau de...
Non. Ben, j'avais un retard en rentrant quand je suis arrivé un peu en avance, quelques mois avant pour recevoir les morceaux qu'il y aurait à faire pour rentrer au conservatoire et tout. Ah, on a eu une petite entrevue avec Jean-Louis Beaumadier qui a dit à ma grand-mère, bon, il a un an de retard sur le niveau requis, donc j'ai dû rattraper cette année de retard pendant l'été. Mais le fait que j'ai que ça à faire pendant la semaine, j'avais pas non plus ni l'université ni rien. Ça rattrapait aussi le fait que les autres élèves, eux, avaient suivi aussi tout un cursus très méthodique. Voilà, le cursus habituel qui fait qu'on arrive en fin de cycle, moi, ça s'appelait la médaille à cette époque-là. Bref, en tout cas, voilà. En tout cas, oui, j'ai fait du classique pendant 2 ans.
D'accord.
Et après, j'ai dû en sortir parce que je retrouvais une dimension un peu scolaire, finalement.
Ouais.
À laquelle j'étais déjà allergique à l'école, mm-hmm. et qui commençait aussi à peser un peu.
Mais vous êtes quand même sorti premier prix du conservatoire au bout de 2 ans.
Oui, je suis sorti premier prix, mais je sentais que vraiment mon cœur, j'avais besoin de retrouver aussi justement ce rapport à la musique qui est pas cadré, mm-hmm. qui est cadré juste par les intuitions et les envies qu'on a par rapport à voilà. Donc après je suis parti à Paris et puis là j'ai commencé à une période d'autodidacte.
Mm-hmm, OK.
Voilà, enfin
c'était la petite vingtaine là, vous aviez juste 20 ans.
Ouais, c'est ça. Okay. Ouais.
Alors c'est à ce moment-là que vous êtes familiarisé avec des artistes américains futistes tels que Roland Kirk. J'ai vu que vous aviez le growl, vous étiez inspiré de Roland Kirk, qui joue donc tant à la flûte ainsi qu'au saxophone.
Ouais, en fait, à part des influences très spongieuses, on peut dire ce terme-là, qui me venait plutôt de John Scofield, de Pat Metheny, de John Coltrane, de choses comme ça, de Michael Brecker à l'époque. J'ai pas eu réellement d'influence directe en fait dans mon parcours. Je me suis j'ai fait beaucoup d'introspection, en fait. Je me suis plus fabriqué par rapport à des introspections, par rapport à des... Oui, un regard sur moi-même, de savoir d'être très clair sur ce que je voulais en musique, même à tous les niveaux, au niveau du son, de la technique, plus général de l'improvisation, de la composition. Après, j'ai été aidé. Hein,
honnêtement, je peux me permettre d'interjecter. C'est vrai que c'est totalement unique ce que vous faites. Hein. Vous avez vraiment découvert et développé un pan de la pratique de la flûte qui est vraiment unique. C'est vraiment une niche vraiment unique que vous avez créée.
Peut-être.
Vous n'avez rien à voir avec Sharon Bezali, Emmanuel Pahu de ce monde. Quoi. C'est vraiment...
Oui, après, ce sont
même
des
Roland
gens vraiment...
Même Roland Kirk ou Bobby Humphrey, je crois que la fille, elle s'appelle Bobby Humphrey, elle est intéressante aussi. C'est pas du tout le même style, quoi. Ce que vous avez fait, ce que vous faites, c'est vraiment complètement
oui, oui.
unique. Pardon.
Oui, peut-être, mais on va dire que c'est personnel, en tout cas.
Mm-hmm.
Et donc, après, oui, il y a eu des influences comme ça, et puis aussi les influences des gens que j'ai rencontrés, hein. Nelson Veras, Denis Guivarch, le groupe Human Spirit, etc. Bon, il y a eu, mais et encore maintenant, c'est quand même ce qui construit ma musique, c'est plutôt de l'introspection. L'introspection et après, une fois que j'ai déterminé un peu les contours et la nature de mes intuitions, une fois qu'elles se précisent, après, je trouve des moyens pratiques de pouvoir y parvenir, et les moyens pratiques, ça va justement générer du travail. Qu'est-ce que je vais travailler à la flûte pour pouvoir arriver à telle ou telle sonorité? Qu'est-ce que je vais travailler pour... Voilà, c'est un travail de conscientisation des éléments par lesquels je peux matérialiser une vision claire et définie de pas mes objectifs, mais en tout cas mes envies, quoi.
Très intéressant.
Donc,
ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous visualisez dans votre tête ce que vous voudriez obtenir et après, vous mettez en place les moyens pour arriver à matérialiser ça dans la matière, en fait. Hein. C'est ça?
Oui, oui.
Tout ça en utilisant votre introspection pour arriver à voir ce que vous ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Mais ça, c'est juste par rapport à vous-même ou c'est par rapport à un groupe qui est autour de vous ou les deux?
Alors le groupe, il y a eu plusieurs groupes là en ce moment. Les groupes, c'est des rencontres, mais en fait, quand on porte des projets personnels. Dont on se veut être le garant. Les groupes, ils influencent parfois on va choisir des musiciens mais c'est pas on va pas dire que je compose de la musique pour des gens. C'est plutôt je m'entoure de gens qui se retrouvent et qui sont en résonance par rapport à la musique que je propose.
Complémentaire avec vous.
Ouais. Voilà. Je suis j'écris pas vraiment de la musique en pensant, mais parfois je vais prendre quelqu'un dans mon groupe parce que je sais à l'avance que ça va ou le prendre à contre-pied ou en tout cas l'intéresser.
Ouais. Mais quand vous dites que vous écrivez, c'est-à-dire que vous écrivez littéralement des partitions ou vous donnez juste les guidelines, les grandes lignes du type. Pardon. On va jouer en clé de, je sais pas moi, clé de sol,
majeur.
Comment ça?
En général, j'écris tout, ouais.
Vous écrivez tout. Ah, ouais, d'accord.
Ouais.
Genre
ouais,
sur une cartouche. Vous faites ça à l'ordinateur maintenant ou faites ça à la main?
En général, je fais ça à la main, mais mes partitions, elles sont pas très. On va dire que c'est. En général, j'ai un vocabulaire musical, enfin dans la musique, qui se rapproche un peu plus de la. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais dire parce que quand même il y a une dimension très très pointue entre guillemets, voilà. Mais ça se rapproche plus de la pop que du jazz finalement. Disons que c'est très rare que je compose avec des thèmes qui sont très longs, avec plein de notes, etc. Souvent, en fait, j'écris tout dans ma musique, mais la façon dont je vois la musique, c'est plus la combinaison d'éléments simples, mais qui sont étrangement assez, enfin, qui mettent en jeu une difficulté qui est pas forcément la difficulté de l'exécution des éléments qui la composent, mais c'est plutôt la de faire ensemble les choses simples que je donne à chacun.
D'accord.
Voilà. Mais parce que j'ai un côté aussi flemmard, j'aime bien moi j'aime pas par exemple les projets où je dois lire plein de textes où il y a plein de mélodies à lire, plein de trucs techniques et tout. Moi je préfère réserver l'aspect technique à l'improvisation. Par exemple un improvisateur, quelqu'un dont je sais qu'il est très très technique, je vais pas forcément lui donner des choses techniques à jouer, je vais lui donner des choses simples. Mais je sais que dans les passages où il va être en charge d'improviser,
ouais,
bah je sais que là sa technique va faire la différence par exemple. Donc
vous laissez voilà. Des espaces aux gens pour aussi avoir leur propre créativité. Et...
Bah c'est du jazz, donc en fait j'écris la musique, j'écris tout, mais dans cette écriture qu'on comprend de toute façon l'espace de la parole personnelle de voilà.
Alors, il y a un autre. Merci pour ces explications, c'est fantastique. En fait, j'avais pas vraiment tilté que vous étiez aussi complètement compositeur, quoi. Donc, merci de le clarifier. Donc, évidemment, vous êtes enregistré à la SACEM, oui. Je suppose. Oui. Mais il y a un autre truc aussi qui me plaît beaucoup dans votre interprétation. Et donc, là encore, je fais référence à Ron Kerr qui fait ça aussi beaucoup avec le growl. C'est que vous intégrez beaucoup aussi la voix dans vos interprétations. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous avez en fait une tessiture qui peut monter très, 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 très haut pour un homme. Enfin, je veux dire pour un homme et une femme d'ailleurs. D'ailleurs, vous nous aviez fait, je me souviens, c'était très agréable durant le concert au musée du Quai Branly il y a 2 ans. Vous aviez fait un espèce de partie de ping-pong avec le public et donc vous nous faisiez, répéter les notes et même pour une femme, c'était des fois c'était très élevé quoi. Alors moi, la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que c'est venu ça le travail sur la voix? Et est-ce que ça vous avez une tessiture, je pense de, enfin probablement vous êtes peut-être pas une voix de basse, mais une voix de baryton. Donc comment ça vous fait pas mal quand vous montez tellement dans les hauts comme ça, dans les octaves super hauts pour un homme?
Ben, en fait, ça me.
Ça vient d'où? Non, mais c'est vrai, c'est incroyable de monter aussi haut pour un homme.
Ouais, je sais pas. Je pense que c'est assez répandu en vrai. Mais c'est peut-être pas super. C'est peut-être pas les voix qui sont le plus en avant dans.
Ça, peut-être que les autres hommes ne l'assument pas.
Etc. Mais en fait, j'ai jamais eu de travail sur la voix.
Ah ouais.
Donc je me fais pas mal parce que je fais jamais quelque chose. Tout ce que je fais à la voix, c'est moi qui décide de le faire.
Mm-hmm.
Je ne fais pas de musique ou alors je le fais très rarement, mais en général, la voix, c'est quelque chose que je laisse libre de toute ingérence ou c'est pas sur commande. Si on me dit, tiens, oui, je voudrais que tu viennes faire un truc sur ma musique, et si on me demande oui, c'est de la voix, là je dirais que je promets pas, non, je viens pour faire de la flûte. Okay. Si jamais je le sens, je fais de la voix, mais que voilà,
c'est pas sur commande.
Non, et pour moi non plus, c'est pas sur commande. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu que la voix, ça reste quelque chose qui soit en dehors de toute discipline, j'ai voulu que ça soit quelque chose qui se construise vraiment que par l'expérience, par l'accumulation de sensations. Voilà, j'ai jamais eu de questionnement technique, sauf dernièrement parce que justement je devais faire un truc dans un projet où je devais chanter et j'avais la voix assez fatiguée et j'ai demandé à une amie mezzo-soprano de me donner des conseils assez généraux, tu vois, pour enfin vous voyez, pour chauffer la voix, pour la relaxer, pour la préparer un peu.
Ah bien. Vous avez de la chance que vous ayez jamais fait de justement d'extinction de voix, etc. Parce que si vous avez, enfin c'est bien d'avoir demandé avant une pro.
Ben, parce que si je sens pas, je fais pas. Je me suis jamais fait mal à la voix parce que j'ai pas, il y a personne qui me force à faire quelque chose qui risquerait de me faire mal. Et moi j'ai pas envie non plus de me pavaner à faire des choses au-delà de juste pour montrer que je chante haut, je vais pas chanter haut quoi.
OK.
Donc je vais pas faire mal.
Non, mais vous mettez pas votre ego là-dedans. Mais enfin non, ça fait très beau, ça rajoute vraiment un quelque chose de spécial et de très.
Mais dans le travail justement du growl, comme on appelle ça, ce qui m'a intéressé, c'est justement, c'est de développer vraiment, d'essayer de développer plus le côté polyphonique que vraiment le growl. Bon, ok, ça c'est d'accord, on met la voix, mais ce qui m'intéresse plus, c'est.
Mais c'est tellement c'est différent, c'est vraiment c'est votre style à vous, c'est vraiment particulier, c'est fantastique. Je voyais aussi que maintenant vous vous êtes donné des cours aussi dans votre CV maintenant vous avez décidé aussi de transmettre et en général, vous transmettez à qui ? C'est des petits jeunes ou c'est des gens qui ont quand même pas mal déjà d'expérience de bouteille ?
Alors, ça a commencé, enfin, on va dire que vraiment, l'événement qui a fait que j'ai dû commencer à faire aussi une introspection par rapport à la pédagogie, c'est le fait d'avoir été sollicité pour enseigner au pôle supérieur d'Aubervilliers.
D'accord.
Au pôle sup de jazz, musique actuelle, bref. Et avec, il y avait Boyan Z et Vincent Segal au début. On était un peu les trois profs un peu de ce nouveau pôle sup.
C'est qui vos les deux autres, pardon, je les connais pas.
Vincent Segal et Boyan Z.
C'est des grands flûtistes?
Non, c'est un violoncelliste et un pianiste.
D'accord, merci.
Et donc on avait, bon voilà, chacun un peu une orientation. Boyan, il était plus sur, c'est un pianiste extraordinaire, il était plus sur le jazz, on va dire entre guillemets le répertoire jazz et les techniques d'improvisation reliées plutôt à la tradition. Vincent Segal était plutôt sur le qu'on appelle le répertoire. Donc ça pouvait être autant du choro brésilien que David Bowie, etc. Donc un travail très sérieux sur tout ce qu'engage ces musiques-là. Et moi, j'étais plutôt sur un atelier avec des moyens non académiques, des approches non académiques en fait, pour pouvoir parfois traiter des éléments de musique qui sont enseignés dans un cadre académique. Et moi, je proposais des moyens détournés parfois de voir les choses. Bon, bref. Et là, j'ai eu des élèves, bon, ben, qui étaient au conservatoire, qui avaient suivi des cursus de jazz. Okay. C'était des ateliers, hein, c'était des ateliers avec plusieurs instruments différents. Donc, c'est pas forcément des flûtistes. Il y a eu des flûtistes, mais très rarement d'ailleurs. Mais donc ça a duré pendant 4 ans. Donc ça a duré pendant 4 ans, et pendant 4-5 ans, j'ai enseigné. Après, j'ai été sollicité par l'American School of Modern Music pour venir enseigner aussi chez eux. Chez eux, pendant 1 an, j'ai fait aussi un atelier où on faisait je proposais de travailler certains de mes morceaux, ou alors certaines approches, etc. Et puis, en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il y avait un problème.
Ah.
J'ai réalisé qu'il y avait un problème, et que ce problème, il fallait justement que j'en fasse, que j'y réponde par justement une proposition pédagogique.
Ok.
Et donc, maintenant, j'enseigne toujours, donc, principalement à l'American School of Modern Music.
Ouais.
Et j'enseigne quelque chose que je suis en train de développer, qui est pratiquement là, bon, dont les contours sont déjà bien définis, mais dont les éléments pratiques sont toujours en train d'être finalisés. Quelque chose que j'ai appelé Basic Music.
Mais c'était quoi le problème, si je puis me permettre? C'était quoi l'idée?
Alors, le problème, c'est que ça serait
sans entrer dans le...
Ouais, en fait c'est simple et compliqué. En fait la façon dont s'est présenté le problème à moi, il est le suivant. C'est que dans mes ateliers, on n'arrivait jamais à faire ce que je proposais.
Ah mince.
Alors que j'avais l'impression de proposer de des choses très simples.
OK. Et c'était dû à quoi ça?
Ben justement, c'est ce à quoi j'ai dû répondre. Et donc, je réalisais que j'avais en face de moi des élèves qui arrivaient à restituer des choses très compliquées dans les autres disciplines. Mm-hmm. Ils étaient capables de jouer des morceaux de Frank Zappa, de jouer des standards, de jouer des morceaux qui demandaient une grande technicité, une grande connaissance de la musique, etc., une grande sensibilité, tout ça. Et moi, à mes cours, quand je demandais parfois de faire un truc tout bête, on va jouer un morceau, c'est 5 mesures de 5 temps, et puis de temps en temps on va marquer un truc précis dans ces 5 mesures là, et puis on va jouer ça, je vais te donner une petite phrase rythmique, tu vas la jouer, puis après tu vas faire des variations dessus, et puis voilà, des choses simples. J'avais plus personne, quoi. C'est-à-dire que on n'y arrivait pas.
C'est pas parce qu'il fallait faire de l'improvisation et que ces jeunes-là, ils n'ont pas l'habitude.
Non, il fallait faire de l'intériorisation. Il fallait être capable d'intérioriser des choses et d'installer un dialogue avec des. Enfin, que la musique, ça soit pas la restitution de quelque chose, mais ça soit un dialogue entre quelque chose qui existe en soi et soi-même.
Et voilà. Ça, c'est,
en fait,
Ça, c'est nouveau, ça, pour tous ces petits jeunes, enfin, tous ces étudiants, je suppose. C'est pas un truc qu'ils avaient déjà fait dans le passé, non?
Ben, peut-être pas exprimé de façon très condensée comme ça et très cadrée, de se dire, bon, ben, maintenant, on va définir trois aspects essentiels de trois axes essentiels autour desquels se développe l'expression du musicien, quel que soit son niveau. Mmh. Alors, j'aurais pas rentré dans les détails là, mais donc il y a trois aspects essentiels qui vont articuler des pratiques musicales qui sont pas instrumentales. Elles peuvent être instrumentales, mais donc dans le cadre de mes cours, on est sans instrument, on fait avec les mains, le corps, la voix, etc.
D'accord.
Et on fait des pratiques instrumentales qui sont censées justement solidifier en fait le musicien dans des bases qui sont très simples, qui vont permettre aussi au musicien de se définir lui-même, de voir quel type de musicien il est, et de pouvoir lui faciliter aussi ses trajectoires une fois qu'il a quitté l'école, de se dire bon, ben, c'est vrai que moi je suis plutôt un musicien de ce type-là, donc je vais plutôt aller vers tel type de choses, sans écarter évidemment les autres choses qui pourraient toujours m'apporter quelque chose, mais en tout cas, enfin voilà. Donc j'appelle ça basic music parce que justement c'est une pratique très basique,
ouais,
mais qui peut être très très difficile, très
ouais.
compliqué.
Parce qu'il faut être en, il faut s'écouter quoi. Ouais,
Pas que. C'est un des aspects, c'est ça, c'est de pouvoir effectivement. Mais bon, voilà.
Okay.
Donc là, oui. Donc là, j'enseigne ça. Et puis, de temps en temps, ça m'arrive de donner des cours, de suivre quelqu'un.
À la flûte.
Voilà.
Ouais.
Mais
ouais.
Bon, après, ça dépend aussi de. C'est pas à la commande. C'est est-ce que j'ai l'impression de pouvoir être utile à la personne ou pas, en fonction de ce qu'elle veut. Alors il y a pas beaucoup, hein, mais j'ai suivi pendant quelques années une flûtiste mais qui venait du coup vraiment pour pouvoir avoir des clés sur la façon dont moi je faisais des clés sur comment moi je faisais.
Mm-hmm.
Voilà, et qui voulait comprendre mon vocabulaire, etc. pour pouvoir en faire quelque chose de personnel, mais il y en a d'autres qui vont plus venir me voir par rapport au fait qu'elles ont, je trouve qu'il y a plus de flûtistes femmes que d'hommes, mais j'en rencontre plus en tout cas, et je pense que c'est parce qu'il y a plus de femmes qui font de la flûte. Enfin,
ouais.
J'ai l'impression, hein. Mais bref, mais c'est pas du tout une étude sociologique, ni donc ça ne vaut que pour mon petit périmètre personnel. C'est pas une généralité. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des flûtistes qui vont venir me voir, par exemple parce qu'ils sont en train de travailler les standards, etc., et qu'ils aimeraient avoir éventuellement peut-être voir comment moi je travaillerais un standard ou comment moi je ferais. Donc c'est pas forcément. Donc ça m'arrive de suivre un peu, voilà, comme ça, des flûtistes sur une période donnée, sans me dire que je vais forcément les amener quelque part, etc. C'est juste, voilà.
Très
on
bien.
Va dire que je vois la pédagogie comme ça. Je vois pas la pédagogie hein? comme un truc. Allez, je vais te voir toutes les semaines, toutes les deux semaines. Hein, on va faire comme ça.
Un peu du coaching aussi, pour ça, en ces cas-là.
Oui, voilà.
Mmh.
Voilà.
Alors, ma dernière question, c'est what's next? Quelle est la suite? C'est quoi la suite pour vous maintenant?
Ben, de la flûte, de la musique. C'est comme les débuts, quoi.
Moi, je vous souhaite que le plus vite possible, vous puissiez recommencer aussi tous les concerts, etc. Parce que,
oui.
C'est vrai que les artistes tels que vous et les interprètes, ils en ont beaucoup souffert, hein, avec la possibilité de faire du live pendant 2 ans, là, presque. Je vous souhaite
que ouais. Après, j'imagine que c'est plus dur pour, c'est plus dur pour les jeunes musiciens parce que justement le passage sur scène c'est hyper important. Enfin, c'est un peu comme le passage au four et à l'enclume pour le forgeron, quoi. C'est-à-dire que un outil ça se forge à coup de marteau et sur l'enclume et au four, quoi. Donc ça c'est la partie concert, en fait. Et bon, moi c'est, je pense que j'en souffre un peu moins parce que j'ai fait déjà plein de concerts et je pense que la facture de ma musique dépend moins maintenant du concert que ça a pu l'être à une époque.
D'accord.
Ça intervient moins dans l'évolution de ma musique ou de ce que je fais. Il y a beaucoup de musique écrite. What next? Déjà la nouvelle flûte.
Ouais, la découvrir.
La découvrir et puis découvrir ce dont elle a envie aussi. J'ai l'impression, par exemple, que c'est une flûte qui a envie. Ben, là, par exemple, c'est une flûte qui a envie beaucoup plus de silence, moins de notes.
C'est pour ça. Vous ayez ce dialogue avec la flûte.
Ben en fait, quand je la joue, j'entends aussi qu'il y a des choses qui viennent plus naturellement qu'avec l'autre flûte, et donc ces choses-là, c'est des choses que elle veut.
Fantastique.
Parce que sinon, moi, j'imposerais juste ma façon. Donc là, je vois par exemple.
Mais t'as une personnalité, dis donc.
Ouais, je pense comme le bois qui va être sculpté par le sculpteur qui a des veines.
J'ai jamais pensé à ça, mais moi.
Dont il doit tenir compte.
C'est bien.
Je pense que la flûte, du coup, là, je suis en train, quand je la joue, je l'écoute aussi pour voir vers quoi elle m'amène. Et là, elle m'amène vers un discours beaucoup plus, on va dire, vocable, comme ça, où les phrases musicales ressembleraient plus à de sectionner plus les phrases en mots, en petites phrases, successives, parce qu'elle aime bien les petits silences. Elle supporte bien aussi les fins, les notes courtes qui sont, enfin, ouais, elle supporte bien les césures, en fait.
D'accord.
Donc il y a ça, il y a l'écriture aussi, parce que je travaille, c'est une partie de la musique, vraiment la musique écrite, pas forcément improvisée. Voilà, What Next, il y a le prochain disque de la plateforme Cafrobeat, c'est un disque de musique d'obédience, un mélangé afrobeat et antillaise.
Mais alors ça, moi, je voulais vous dire, Malik, ce serait vraiment bien que vous mettiez tous vos albums, parce que j'ai vu sur votre beau site internet que vous sur Spotify, parce que moi, ça fait des années que j'ai un abonnement chez Spotify, et donc j'ai copié tous mes CD, ok, et je les ai mis sur mon hard drive de mon MacBook. Et après, j'ai donné à un organisme de charité en Angleterre qui s'appelle Oxfam. Je les ai tout donné, en fait. Et aussi à mon père.
OK. Oui.
Alors, moi, il est mort quelques jours après. Enfin, bon, ça, c'était, c'est une autre histoire. Mais enfin, moi, j'ai plus de CD. Et donc, en fait, maintenant, j'écoute la musique que sur Spotify et aussi, donc, sur Apple Music, parce que j'avais enregistré tous mes CD que j'avais, tous les Roland Kirk, vos CD à vous, etc., entre autres. Mm-hmm. Hein, voilà. Et donc, après, quand je vais sur Spotify, j'essaie de trouver tous vos CD, tous vos albums, ils y sont pas tous! Et ça m'énerve!
Et donc,
c'est vrai que là, j'espère le prochain, là, sur la musique antillaise et africaine, j'espère qu'il sera aussi sur Spotify. Si vous avez un manager, faut lui dire, mais mets tout ça sur Spotify! Deezer aussi, mais Spotify, c'est plus gros, quoi.
Ouais. Mais moi, je crois que, en fait, je suis pas hyper, concerné par les moyens de diffusion.
Ah bon?
Non.
Mais pourquoi? Vous avez pas remarqué que la culture américaine, c'est des produits du contenu moyen, qualité moyenne, mais par contre, leurs canaux de distribution sont fantastiques, quoi. Entre les Netflix, les HBO, etc., ils sont super bons dans la distribution, mais en général, leur contenu, c'est pas, voilà, quoi. Mais alors vous êtes complètement l'opposé. Vous êtes comme les Japonais, c'est-à-dire un produit fantastique, mais les canaux de distribution.
Bah, parce que je pense que l'information ou la chose ou la, va toujours là où elle doit aller. Et des fois, ça prend.
Ah, mais faut alors, aider.
Ouais, faut aider dans un monde où les choses doivent aller vite et tout de suite. Mais en fait, quand on regarde les partitions de Jean-Sébastien Bach, sont arrivées quand même 300 ans plus tard ou 200 ans plus tard. Elles sont quand même arrivées finalement à être à ce qu'elles soient hyper généralisées maintenant. Alors que bon, donc si on voit à court terme, on se dit oui bon ben voilà les disques ils sont pas etc etc. Mais il y a au moins une personne.
Non mais moi je vous parle pas de votre postérité, vous l'avez acquise.
Mais moi non plus.
Je vous parle de pouvoir écouter Magic Malik quand je fais mon jogging dans Regent's Park ou autour de, dans le parc des Batignolles quand je suis à Paris, vous voyez. Et j'ai mon iPhone, j'ai mes AirPods, et là, en général, ce que je fais, c'est que je vais sur Spotify pour aller trouver le bon album. Moi, vous voyez, je suis pragmatique, moi.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai aussi. Mais c'est vrai aussi que, ben, il y a parfois certaines choses qui sont pas accessibles. Je les laisse faire, en fait. Alors.
Mais ouais, vous devriez l'exiger dans le contrat!
Mais après, ça dépend aussi. Je vois par exemple avec 1111, le label avec lequel j'enregistrais pas mal des projets récents. Mm-hmm. Il y a un travail qui est très sérieux qui est fait par rapport à tout ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis quand c'est fait, je suis heureux que ce soit fait. Et après, je laisse la chose faire son chemin. Y compris chez les gens, dans le cœur des gens, et dans, voilà, mais y compris aussi dans le monde, quoi. S'il y a un disque qui doit arriver nulle part et qui finit juste dans un iPod ou dans une armoire, etc., et qu'ensuite il va être redécouvert par quelqu'un qui va le redécouvrir par hasard et qui va le réécouter et qui va dire « Ah tiens, c'est quoi ce truc-là ?» Ou alors qu'il va pas pouvoir l'écouter parce qu'il sera complètement détruit, mais qu'il restera juste un morceau. Mais peut-être, enfin voilà. Moi, c'est même pas une question de postérité. Au contraire, c'est de dire que les choses, des fois, elles sont pas accessibles, et des fois, elles sont accessibles par hasard, et des fois, elles sont accessibles par des moyens détournés, des fois, elles sont accessibles tout de suite. Donc voilà, j'ai pas trop de. Je me dis que des fois, on peut faire quelque chose et que ça peut disparaître le lendemain, mais ça aura quand même existé.
Bon.
Donc, ça continue quand même son chemin, même si c'est pas chez Spotify, même si c'est un chemin qui arrive dans l'oreille de personne, ça fait quand même un chemin. Oui, c'est dommage pour les oreilles des gens qui auraient pu l'écouter, mais...
Quand est-ce qu'il va sortir alors cet album de musique africaine / antillaise?
Il y a trois albums qui sont en préparation là. Il y a celui-là de la plateforme Cafrobeat.
Ok.
Il y a le prochain disque de la Fanfare XP.
Ah, très bien.
Et il y a le prochain disque de la Jazz Association.
Voilà, ah oui, c'était des reprises, n'est-ce pas? La Jazz Association, c'était des reprises où vous faisiez des interprètes.
En fait, c'est
très bien,
en fait,
je suis bien aimé.
C'est pratiquement le premier disque que je fais où c'est un disque justement de répertoire. Ouais. C'est pas un disque qui est basé sur mes morceaux ou ma musique.
C'est bien, ça change. J'ai bien aimé le premier tome entre guillemets, le premier album.
Ok. Ouais. Ben là, on est sur le deuxième. Voilà.
Vous aviez pas une batteuse à un moment dans vos différents enregistrements de vos XP qui était une femme? Vous avez pas une batteuse femme? Je regardais sur le CD, il y avait marqué le nom où le batteur c'était une femme. Non, vous avez jamais eu de peut-être au sax ou non.
Non, c'est au mélodica, la flûte. Dans la Fanfare XP, il y a une flûtiste, c'est une enfin, elle fait du mélodica, mais à la base, elle est pianiste, hein. Okay. Et sinon, à la batterie, non.
Ok. Non, c'était des albums que vous aviez fait il y a 10-15 ans, hein, dont je vous parle.
Ah, ok.
Mais en tout cas, merci beaucoup, Malik, merci.
Eh ben, merci.
Ça m'a fait super plaisir de vous parler. Franchement, vous êtes, vous êtes un des musiciens que j'admire le plus.
Ben, ça me fait plaisir.
Thank you for listening to our podcast Lawfully Creative, produced by Crefervi Studios. Subscribe to our podcast or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you.